Ça s'appelle Au détour d'une rencontre. C'est une émission qui vous propose de partir à la rencontre d'une personne, d'un projet, d'un métier, d'un engagement, d'une réalité de vie. C'est une émission qui parle des autres, de soi, qui questionne ce que nous sommes, ce qui est, ce que nous faisons, dans quel but.
Café long comme tout à l'heure, avec non, sucre non, pour la madame et deux chocolats chauds.
Ça va toi?
Ça va et toi?
Oh, hein? Ça va pas mal.
Bah ouais, hein, d'un temps plus vieux comme ça, c'est...
C'est pas rousseur. Je viens, je danse.
Bon, alors qu'est-ce que vous attendez de moi? Il y a une ligne directive ou pas?
C'est découvrir le métier de...
La torréfaction ambulante, quoi.
Oui, c'est ça.
D'accord. Mais sinon, au niveau, on dit des conneries ou on est sérieux?
En fait, ça dépendra des questions, mais on est comme on
veut. Voilà, on fait comme on veut, quoi.
On fait comme on veut. Okay. On fait comme on veut.
Après, je trouve que j'ai une clientèle qui est assez, assez fun, quoi. Moi, j'ai pas vraiment de difficultés. Les gens viennent plutôt pour se marrer, quoi. Enfin, c'est l'impression que j'ai. Donc, c'est vrai qu'il y a une ambiance assez cool, quoi. Plus sur un moment social que sur un moment purement de consommation. Quoi.
Visite de la caravane. Aujourd'hui, on est samedi, donc on est après le marché, mais comment ça commence la journée du samedi, enfin la journée du marché?
La journée du marché, comment elle commence? Elle commence essentiellement à 7h30 avec que les commerçants. Quoi.
Non mais même avant, quand vous êtes chez vous.
Ah quand chez moi, moi je prépare tout en amont. C'est-à-dire que le matin je me réveille, je suis prêt à partir. J'ai déjà fait mon réassort. J'ai pas beaucoup de préparation à faire. Tout est fait la veille. Donc je me réveille à une heure assez correcte par rapport aux autres commerçants. Et j'arrive, je suis déjà prêt. Quoi.
Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce que c'est lui-là?
Là on va regarder les équipements dans la roulotte. Alors comment vous l'appelez la roulotte là?
Ouais, non, c'est vrai qu'on peut, nous, on appelle plus ça une remorque. Une remorque magasin, quoi. Mais c'est vrai qu'on parle souvent de roulotte, de caravane. Voilà, macahute. Mais sinon, à la base, c'est une remorque magasin qui est vraiment faite pour l'alimentaire. C'est une remorque qui est fabriquée pour faire des food trucks.
Mais de rien.
Bah, Samy, alors.
Oui, y a pas de problème.
Bon courage. Bon, il arrive, mon double expresso.
Ça, c'est ma machine à expresso. Je travaille uniquement avec cette machine depuis 12 ans. Enfin, c'est pas la même, mais c'est toujours la même marque. C'est vraiment une machine de barista. Donc, il y a zéro réglage. Tout est manuel.
Bonjour.
Bonjour. Vous allez bien?
Bien et vous?
Ça va.
Qu'est-ce que
deux cafés gourmands. Un à la noisette et un... Vous avez peut-être des nouveaux goûts?
Non.
Un à la noisette et un caramel au beurre salé.
D'accord.
La première année, en fait, moi, je me suis lancé. J'étais parti en tant que torréfacteur, la boisson, je voyais ça comme un petit plus, quoi. Faire 20% de boisson et puis 80% de vente en vrac. Il s'avère qu'en fait, c'est l'inverse. Je fais plus débit de boisson que de vente en vrac. Donc, j'étais obligé d'augmenter ma gamme, augmenter les sirops pour faire des cappuccinos arrangés, faire des boissons glacées en été, des cafés frappés. Mais ça, c'est venu, en fait, d'année en année, j'ai augmenté un peu ma gamme.
Alors, on se déplace. L'espace est...
C'est pas immense, soit.
Ça fait quelle superficie?
Ah, c'est tout petit, ça fait 3 par 1,50, quoi. Ouais.
Loi Carrez?
Loi Carrez, ouais, parce que là, ça va, on a quand même de la hauteur sous plafond. Mais bon, on marche en crabe quand même. Hein.
Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a?
Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste... Ah oui. Est-ce que vous pouvez vous approcher de la belle bête?
Voilà, donc ça, voilà. Ça, c'est, on va dire, c'est le nerf de la guerre, c'est le torréfacteur. Et c'est sans doute ce qui a fait un peu ma différence, quoi, parce qu'on en voit peu en ambulant, parce que c'est difficile à mettre en œuvre. Donc là, moi, j'ai un petit torréfacteur qui fait à peu près 1,5-2 kg de café à chaque torréfaction. Donc il pèse quand même 130 kg. Et ça me permet de torréfier en permanence, quoi. C'est-à-dire que je suis toujours à flux tendu, mais ça me permet de garantir un café qui est frais à moins de 24 heures, quoi qu'il arrive. Torréfacteur, c'est tout simple, c'est une cuisson, hein, pour passer du café vert qui est inconsommable, hein, qui n'a pas d'arôme en soi, qui est chargé d'acidité, qui est dur comme du bois, pour arriver au café consommable, qui là, la torréfaction, c'est la transformation des sucres, hein, la caramélisation, et puis c'est les arômes qui se développent. Et donc une torréfaction, ça dure à peu près une vingtaine de minutes, à peu près une torréfaction lente, quoi, traditionnelle.
Donc ça veut dire que le grain est monté à quelle température ?
Alors là, on monte jamais très haut, surtout avec celui-là. Ça dépend des torréfacteurs, mais en général, on dépasse pas les 190 degrés. Donc moi, je suis autour de 180.
Café, j'ai du Brésil, de l'Éthiopie qui sort dans 30 secondes, qui sort maintenant.
Bah, Éthiopie.
Par Éthiopie ?
Ouais.
Donc ça veut dire que quand vous êtes au marché, vous êtes à la fois au service et à la cuisson.
Oui, voilà. C'est ça qui n'est pas forcément facile. Ouais. Donc service, il faut servir les gens, il faut aussi discuter avec les gens. Et en même temps, il faut torréfier, il faut produire de la marchandise, parce que sinon on évitera tout.
La torréfaction, ça s'apprend.
Voilà, c'est vraiment savoir différencier les cafés, reconnaître les grains, reconnaître les origines, arriver à lire par exemple un sac de café, parce qu'il y a des codes pas possibles. En fonction de chaque pays, ça correspond à certains critères, certains calibres. Ça m'a appris tout ça. Ça m'a appris surtout aussi le monde post-récolte qui se passe directement dans les pays producteurs. Et quel est l'impact en fait du traitement du café, que ce soit un café juste séché au soleil, nature, ou un café qui va être lavé, dépulpé. Et ça a un réel impact sur le goût après torréfaction. Et donc voilà, ça m'a donné cet ensemble-là. Et puis aussi, ça m'a appris à utiliser un torréfacteur, qui est quand même une grosse machine dangereuse. Mais après, moi, mon torréfacteur, tous les torréfacteurs sont différents. Et il m'a fallu bien un ou deux ans à vraiment maîtriser le mien.
Ça a commencé un matin à Concarneau.
Premier marché à Concarneau.
Concarneau, c'était un beau jour d'été. C'était
un jour de printemps, ouais. Ça devait être en avril, fin avril, je me souviens plus, mais oui, il faisait beau. Il faisait beau, et c'était à l'époque où, au mois d'avril, à Concarneau, il y avait du monde, quoi. On sentait, ça y est, que la saison commençait, mais c'est plus comme ça, maintenant. Maintenant, on sent que la saison, elle commence mi-juin. Avant, la saison, 1er avril, c'était... Il y avait une effervescence, quoi.
Et donc, le lendemain à Quimper ?
Le lendemain à Quimper, alors je suis à la Névée, de samedi matin. Alors, pourquoi ? Je sais pas, on m'a dit, ouais, Névée, il y a un marché. Bon, tiens, je vais y aller, c'était pas très loin de Concarneau. Bon, là, j'arrive à Névée, je sentais pas le coup, je dis, allez, je vais avec Quimper. Je savais même pas où était le marché, on va dire. Donc, je suis arrivé là, et puis voilà, je suis resté. Et aujourd'hui, c'est mon marché préféré.
Qu'est-ce que ça change d'être marchand ambulant, en fait, par rapport à une boutique habituelle ?
Eh ben, alors, le marchand ambulant, physiquement, c'est quand même très dur, parce qu'on est quand même dans les intempéries, on est quand même dans la rue, on travaille dans la rue, donc il n'y a pas de filtre, on est avec les gens, on peut être avec des gens qui sont agressifs. Bon, moi, ça ne m'arrive pas, ici, personnellement, j'ai jamais eu vraiment de problème. Je vois, par exemple, moi, quand j'étais petit, en région parisienne, mes parents, c'était une autre histoire sur les marchés, quoi. Donc, on est assez préservé en Finistère. Mais en boutique, l'inconvénient, c'est vrai que, bon, bah, c'est des heures et des heures à passer derrière une vitrine, à attendre le client parfois. Et je dis ça parce que ma mère avait une boutique, donc je l'ai vécu aussi. Donc on est au chaud, mais bon, parfois c'est long.
Qu'est-ce que vous pensez que les clients attendent d'un marchand ambulant ?
Ouais, de la proximité. Beaucoup de proximité, dans le sens où je pense que les gens cherchent à créer un lien plus avec un marchand ambulant qu'avec un commerçant lambda. Si, bien sûr, si vous y allez tous les jours... Mais là, on a ce côté aussi, on vient une fois par semaine, c'est comme un rendez-vous.
Oui, on va le voir des fois le vendredi à Concarneau et le dimanche à Foyant. Ça nous arrive quand il fait la saison, l'été, oui, on le voit le vendredi.
Je suis quand même très disponible la semaine. C'est sûr que le week-end, la vie de famille, c'est pas facile. Alors après, ça dure 6 mois, maintenant, bon, j'ai quand même mes dimanches qui sont disponibles. Mais oui, il faut trouver le conjoint qui l'accepte, hein. C'est pas forcément facile. Surtout quand votre conjoint a un rythme normal. Parce que ma femme, elle est salariée, elle travaille toute la semaine, elle a son week-end. Parfois, oui, ça peut être pesant. Mais bon, ça nous permet aussi d'avoir des périodes aussi de plus cool en hiver, qui nous permettent de partir en vacances. Donc, il n'y a pas vraiment de format idéal.
C'est un peu le C8 du marché, tu vois.
Comme une insulte.
Vous avez la réputation d'avoir un certain humour, d'être un peu tranchant. Est-ce que c'est venu, ça a été comme ça dès le début, ou comment vous trouvez la juste mesure?
Je pense que j'ai toujours été comme ça. Dans l'absolu, c'est mon caractère. J'ai toujours, petit déjà, bon, j'étais le fanfaron de la de la maison, mais après je vois en fonction aussi de mon public, c'est-à-dire que si ça marche avec le... On ressent les clients. Je m'arrête si, si je sens que je vais trop loin ou si la personne n'est pas réceptive, je reste professionnel. Mais bon, j'ai l'impression que les gens, ils cherchent aussi à se marrer, donc on y va. Et puis après, c'est une inertie, c'est-à-dire que les gens, ils viennent pour rigoler, donc même ceux qui n'étaient pas venus pour ça, bon, bah, ils sont pris un peu dans, le, dans la vague et puis ils se laissent mener. C'est un peu ce que je ressens. Oui, alors des amis, peu en fait, mais beaucoup de copains, ça c'est sûr. Mais on a tous nos... Alors c'est marrant parce que les marchés, on travaille tous ensemble, mais on est tous indépendants, on a tous notre vie, on a tous nos impératifs. Donc on se retrouve là à l'instant T, on partage un moment mais qui est très court, donc on devient tous copains, mais sans jamais vraiment aller plus loin.
Les places ont changé au marché de Quimper. Il y avait beaucoup, enfin, j'ai entendu beaucoup de réticences, beaucoup de craintes parmi vos collègues. Est-ce que maintenant qu'on est un peu après, qu'est-ce que vous auriez à en dire ?
Bah moi, je pense que ça a fait beaucoup râler pour pas grand-chose. Alors c'est sûr que je comprends, il y en a plein qui ont eu très peur, parce que pour certains, c'est leur unique marché de la semaine, donc il y a un gros enjeu. Donc faut pas que ça cafouille. Moi, j'étais pas spécialement inquiet. Alors peut-être parce que je suis inconscient et j'ai autre chose à penser, peut-être. Mais aujourd'hui, je trouve que c'est mieux qu'avant.
Est-ce que vous êtes conscient d'un possible poids sur l'opinion, d'un certain poids politique que peuvent avoir les commerçants, notamment les commerçants ambulants ? Ou est-ce que vous êtes, justement, par rapport à ça, s'il y a des clients qui vous disiez qu'effectivement, on est dehors et que c'est un peu franc comme
échange ? Ah oui, c'est franc, il n'y a pas de filtre. Après, c'est comme tout, c'est un ressenti, on le sent, quoi. Il y a des gens avec qui on a envie de partager, on sent que c'est possible, et il y a des gens, non, on n'a pas du tout envie, on sent que c'est, on est sur un terrain glissant, et puis bon, on fait une petite pirouette, et puis on passe à autre chose, mais c'est... Moi, je ne m'engage pas forcément dans des conversations engagées, politiques, ce genre de choses, avec tout le monde. Il faut vraiment que j'ai un climat de confiance. Et puis bon... C'est vrai, on est mixé avec toute la population, donc toutes les tranches sociales, tous les idéaux politiques. Parfois, on entend des discours qu'on n'a pas forcément envie d'entendre. Donc, au bout d'un moment, on est un peu, on a peur. On ne veut pas non plus attiser le feu, donc on essaye quand même de limiter
sur
des
sujets. Le chiffre d'affaires est à l'export.
Exactement, voilà.
C'est ça. Non, mais les cafés au Brésil, c'est la merde.
Ah oui, il n'est pas dingue, non. Le meilleur, il est gardé pour l'export.
C'est ça.
Bah, c'est ça.
Voilà, dans tous les pays producteurs, hein, ouais. C'est bon.
C'est pour ça qu'il y en a ici. Hein, voilà.
Est-ce que vous êtes questionné sur la provenance de vos produits, sur le côté éthique, sur vos connaissances des conditions de production, des conditions de distribution ? Est-ce que vous êtes questionné par rapport à ça ? Parce que ce sont des produits, vous l'avez dit tout à l'heure, exotiques.
Exotiques, oui, tout à fait. Donc, ils viennent à l'autre bout du monde et on ne sait pas trop ce qui se passe. Alors, on sait, en fonction de la réputation de chaque pays, plus ou moins des producteurs, on va dire, qui respectent l'environnement ou les petites mains, ceux qui ramassent. Mais c'est quand même assez obscur hein, comme milieu. On n'a pas vraiment d'informations, à part si on travaille avec des cafés qui sont certifiés, ça m'arrive, hein, avec Max Ablard, tout ça, ou Max Ablard, ouais, qui est bio, certifié, équitable, ce genre de choses. C'est une certification qu'on paye en plus hein, sur chaque kilo de café et qui nous garantit... alors, je ne suis pas non plus très, très, très au courant de ce genre de choses. Mais ça nous garantit, bon, à l'origine, un travail plutôt équitable, hein, le respect de l'humain, le respect aussi de la terre. Entre moi et le producteur, il y a un négociant avec qui je travaille, donc qui lui importe le café et donc me le livre chez moi. Et donc lui, il fait vraiment la transition entre le pays producteur et nous. Et arriver donc directement dans le pays producteur. En général, il y a des coopératives, donc il y a une coopérative qui rassemble tous les cafés de la région. Voilà, et puis après, c'est des petits producteurs avec des petits ramasseurs. Et donc là, c'est plutôt la zone assez obscure, on ne sait pas. C'est-à-dire que bon, le négociant gagne sa vie. Le torréfacteur, il gagne sa vie. La coopérative, j'imagine qu'elle gagne bien sa vie. Mais alors, le petit ramasseur, voilà, ça, je ne peux pas vous dire.
Et donc, le négociant, il est en Europe ?
Oui, oui, c'est un négociant français. Moi, je travaille avec Jobin, qui est le plus ancien négociant en France, hein, qui est basé au Havre et à Bordeaux. Et donc, eux qui importent... voilà, qui importent pour les torréfacteurs artisanaux, mais aussi pour l'industriel, ils font de tout.
Le Havre, Bordeaux, c'est plutôt des mauvais souvenirs, ce qui concerne les liens avec l'Afrique ou...
Bah, les grands ports, en général. Oui, bah, j'en parlais même aujourd'hui. De toute façon, on me demandait pourquoi on buvait beaucoup de Robusta avant en France et tout. Oui, bah, j'aurais dit, bah, c'est le passé colonial. Hein. On avait des colonies qui produisaient du Robusta, plus que de l'Arabica, donc on buvait du Robusta. Mais ça, j'en suis complètement conscient, quoi. Bah, un peu comme tous les produits exotiques qu'on consomme, hein. Même qu'on consomme une banane, elle a quand même une empreinte historique. Quoi.
Bon, pas la semaine prochaine, je suis en vacances.
Bah ouais, c'est ce qu'on vient de découvrir. Voilà. Vous allez où ?
En Ouzbékistan.
Ça va, il y a pire. Ok.
Voilà.
Bah, on veut voir des photos.
Ok, ça marche. Moi sur la plage, ça va être...
Ouais, moi sur la plage.
Alors, je connais pas l'Ouzbékistan du tout, mais je suis passionné depuis des années. C'est la route de la soie qui me fascine. En fait, toute cette région-là d'Asie centrale. Alors déjà, je suis intéressé par les régions où il n'y a pas trop de monde. Moi, j'aime bien, c'est quand partir dans un endroit où les gens n'arrivent pas forcément à situer le pays. À partir du moment où ils arrivent à le situer et que tout le monde connaît, ça m'intéresse plus. Donc, l'Ouzbékistan, je dis pas que c'est la découverte absolue, mais c'est vrai que c'est un pays qu'on connaît pas beaucoup. Déjà, la capitale, peu de personnes la connaissent. Peu de personnes y voyagent, même s'il y a quand même du tourisme là-bas. Hein. Je m'attends pas à être tout seul. Hein. On essaye de faire deux voyages par an. C'est aussi pour ça hein, qu'on fait ce métier-là. On voulait se dégager du temps pour pouvoir voyager, parce que c'est essentiellement notre passion... avant tout, c'est de partir. Et donc, à la Toussaint, on essaye toujours de faire plus un voyage touristique, découverte. Et en février, on essaye de faire un voyage plus repos, voilà, pour se détendre un peu avant la saison et puis pour passer l'hiver, quoi. Donc, en général, on va beaucoup à Oman depuis une dizaine d'années. Voilà, c'est un peu notre paradis en ce moment. Sinon, on a fait beaucoup de pays. On aime beaucoup tout ce qui est Proche-Orient, Moyen-Orient, Asie centrale. On avait fait l'Iran il y a quelques années. Et c'est pour ça qu'on a envie d'aller en Ouzbékistan, parce qu'on est quand même sur des pays qui sont, au niveau de l'architecture, qui sont équivalentes. Et l'Iran nous avait fascinés. Sinon, beaucoup de Turquie. On aime beaucoup la Turquie, mais surtout la partie anatolienne ou la partie extrême-est à la frontière de l'Iran. Sinon beaucoup de pays type Algérie, Jordanie, on est parti en Israël, Palestine, enfin voilà, on essaie de voyager un peu dans ces coins-là, mais jamais très 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 loin dans l'absolu, parce que on évite aussi quand même de faire 16 heures de vol pour partir deux semaines.
Et dans les destinations que vous évoquez, il y a beaucoup de traditions du nomadisme.
En Asie centrale, ouais, tout à fait.
Ça fait un lien aussi avec votre...
C'est inscrit dans les gènes, hein. Je vous dis, c'est plusieurs générations de commerçants sur les marchés. Oui, je pense qu'il y a un côté, ce côté ambulant, quoi, ce côté qui est relié, le fait d'avoir une attache, quoi qu'il arrive, mais de vagabonder un petit peu.
Et il y a une tradition du déplacement, de l'exil dans la famille ou... C'était plutôt vraiment sur l'aspect commercial.
Non, après, des parents voyageurs aussi, c'est sûr, des parents voyageurs. Après, moi, des arrière-grands-parents immigrés aussi. Donc, ouais, je pense que, ouais, il y a quand même un côté, ouais, un côté vagabond, quoi.
Il venait d'où ?
Pologne.
Et vous y êtes retourné ?
Non. Non, non. Il est trop froid et puis il n'y a pas de café. Non, eux-mêmes, ils sont pas retournés, vraiment. Alors après, c'était dans les années où c'était pas si facile que ça d'y retourner, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Et puis là, aujourd'hui, où on va dire c'est plus facile depuis une vingtaine d'années, bon, bah, il n'y a plus de famille, donc il n'y a plus vraiment d'intérêt. On va dire que c'est loin.
Merci à vous. Hein.
Bonne journée.
Alors, des envies de changement professionnel je suis pas encore arrivé à en avoir marre, non, j'ai envie de continuer mon métier, mais je pense que il faut être lucide, c'est-à-dire que c'est difficile de tenir jusqu'à sa retraite sur les marchés. Alors, il y en a qui le font, hein. Mais c'est quand même très difficile physiquement. Donc il y a aussi l'obsolescence du matériel qui avance progressivement. Matériel, il a 12 ans, dans 8 ans, il en aura 20. On verra, on va dire, dans 8 ans, si on réinvestit dans tout et on se relance pour 20 ans ou si on change, on fait autre chose.
On le connaît bien maintenant, on voit quand il n'est pas bien.
Ah, d'accord, bah, c'est bien. Ouais, super.
C'est la fin de saison.
Ouais, il est fatigué. Ouais, ouais, ouais.
Ou alors, la fin de saison est bien entamée. Oui, c'est l'hiver. Hein. Ça, c'est la saison morte.
Regarde les cernes qu'il a.
Des regrets, des envies, je sais pas. Des regrets, non, non, pas de regrets. C'est dommage de vivre avec des regrets. Des envies, oui, oui, des envies, essayer de trouver peut-être plus de quiétude, enfin d'apaisement dans mon métier, quoi. C'est-à-dire que c'est un métier qui est super speed, quoi. Très, très, très speed, parce qu'on est là très peu de temps, en fait. Notre temps de vente, il est de 5-6 heures, parfois plus en saison. Et bah, il faut y aller, quoi. Et c'est pas toujours facile. J'aimerais trouver un moment où que ce soit plus cool, quoi. Arrivez-moi à la maison complètement au bout du bout. C'est très fatigant. C'est très fatigant. Alors après, c'est un peu le... Ah, c'est aussi mon fond de commerce, hein. Faut pas se voler la face. C'est la proximité avec les gens, c'est le fait de connaître les gens, de se marrer, toujours avoir une anecdote. Mais bah, ça prend beaucoup d'énergie. Ça, de donner un peu d'importance à chacun, essayer de s'intéresser à chacun, c'est aussi ce que les gens recherchent. C'est pas juste des clients, beaucoup, hein, c'est des clients copains, donc on peut pas, du jour au lendemain, leur servir un café, dire, bon, on passe à autre chose, ils le comprennent pas. Donc voilà, il faut accorder un peu d'attention à tout le monde, comme eux, ils accordent de l'attention aussi à ma personne, donc c'est le juste retour des choses.
On vient depuis un an. Tous les samedis, on va prendre notre café ici.
Moi, mon épouse et de temps en temps des amis qui nous rejoignent.
Jamais vous venez seul?
Non.
C'est pas une histoire de célibataire de...
Non. Et il est un peu intimidant, donc j'ose pas trop venir à la seule. Et on vient pour le café, hein.
Merci,
hein. Et après, quand on connaît le bonhomme, on vient aussi pour le bonhomme. Tristan, c'est le petit bonus.
Pour bien commencer ma petite journée et me réveiller, moi, j'ai pris un café, un arabica, noir et bien corsé. J'enfile ma parka, ça y est, je peux y aller.
Okay.
Vous venez
souvent?
Pas souvent, une fois, deux fois par mois, comme ça.
On doit allonger.
Pour un mocha.
Toujours un mocha.
Bien sûr. Vous
venez
souvent?
Non.
Tous les week-ends.
Et à la même heure?
Pratiquement. Oui, autour de 9h30-10h, voilà. On reste une heure. On déconne pas mal. C'est un schnappant. On papote. Et puis on se retrouve entre copains aussi. Voilà.
Ouais. On est que 3, mais on est propre 6, 7, 8.
Ouais. C'est une
bande. S'il n'y avait pas Tristan sur le marché, il manquerait quelque chose.
Voilà.
C'est un lieu où les gens se parlent. Voilà. Et puis ils finissent par se connaître. Voilà.
Ça s'appelle Au détour d'une rencontre, c'est une émission qui vous propose de partir à la rencontre d'une personne, d'un projet, d'un métier, d'un engagement, d'une réalité de vie. C'est une émission qui parle des autres, de soi, qui questionne ce que nous sommes, ce qui est, ce que nous faisons, dans quel but.
Il faut que ce soit un moment de partage, quoi, parce qu'on peut boire un milliard de café, peu importe le café, quoi qu'il arrive, il est bon s'il est bien partagé. C'est un peu mon état d'esprit.
J'y vais au son vert.
pas le temps.
Ma route est la même. Ah ah, je n'ai pas le temps.